France. On va aller à l'hôpital dans ce journal pour un changement de statut annoncé. On plongera dans la ZEE avec les nouvelles aires marines protégées et un concours de projets. On parlera aussi Carbass, Ice et puis une rencontre en fin d'édition avec un sportif qui lutte contre la maladie. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Un mot de politique pour commencer, les établissements publics de santé partent vers l'Assemblée.
Et oui, le projet de loi du pays préparé par Cédric Mercadal, qui en avait plusieurs fois parlé sur nos antennes, a été validé hier en Conseil des ministres. L'idée est simple, créer une catégorie d'établissements publics du pays spécifique aux établissements de santé qui sont aujourd'hui, c'est le cas du CHPF, des établissements administratifs. Un nouveau cadre pour des règles de gestion plus adaptées aux défis actuels du secteur et ils sont nombreux ces défis. Comme le précise le gouvernement, vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, crise sanitaire qui est en risque, pénurie de soignants aussi. Les établissements publics de santé doivent permettre d'être plus attractifs, plus réactifs, plus efficaces donc dans les recrutements. Aucun doute pour le pays, il s'agit d'une évolution structurelle majeure qui ne concerne pas d'ailleurs que le Taonnais. Le projet de loi prévoit la création d'un statut d'établissement d'hospitalier central, mais aussi des établissements périphériques qui pourraient s'appliquer aux hôpitaux Taravao et des îles, aujourd'hui directement gérées par la direction de la santé. Et puis deux autres catégories, les établissements spécialisés dédiés à des prises en charge particulières ou à la recherche et des établissements de coopération qui doivent permettre de créer des ponts entre toutes ces structures. À chacun son cadre donc, à chacun sa gouvernance modernisée autour de conseils de surveillance, d'un directoire, d'un projet d'établissement quinquennal. La réforme prévoit aussi de créer un groupement de santé de Polynésie française, le GSPF, un établissement de coopération donc, qui mutualisera certaines fonctions support ou réalisera des achats communs. Un texte qui a donc été transmis à l'Assemblée. D'après le gouvernement, il s'agit d'une première pierre à une transformation plus large des structures publiques. Seul objectif, assurer la pérennité d'une offre de santé toujours plus fragile.
Et puis hier, au Conseil des ministres, on a aussi parlé d'océan.
Et oui, on en parle beaucoup depuis l'UNOC, cette conférence des Nations Unies pour l'océan qui s'était tenue à Nice en juin 2025. Rappelez-vous, Moetei Brotherson y avait fait des annonces de protection supplémentaire dans la ZEE polynésienne. Des annonces qui avaient fait débat jusqu'à Taraoe fin août, où avait tout de même été acté le classement de la zone économique exclusive en aire marine protégée plutôt que aire marine gérée, comme c'était le cas jusqu'à présent, ainsi que la création d'aires de pêche réglementées. Eh bien, ces nouvelles protections ont été actées dans un arrêté adopté hier en Conseil des ministres. Comme prévu, le texte fixe des règles générales, comme l'interdiction totale de l'exploitation minière des fonds marins ou le bannissement des DCP dérivants. C'était déjà le cas, mais cette fois, c'est inscrit dans le marbre. Le texte crée surtout des zones de protection fortes autour des côtes de chaque île de la Société des Marquises, des Australes et des Gambiers, 200 000 km² au total, où seule la pêche côtière, celle des petits navires, donc, va être autorisée. S'ajoute une réserve marine sans pêche d'aucune sorte à l'ouest de la Société, tout près des îles Cook qui sont tentées, eux, rappelez-vous, par l'exploitation des grands fonds marins. Cette zone est de protection plus stricte, s'étend sur 220 000 km². Et un autre parc marin est créé de l'autre côté de la ZEE, autour des Gambiers, beaucoup plus grand, celui-là, avec ses 677 000 km², bien sûr. Cette réserve où seules les activités traditionnelles et costoristiques et scientifiques seront autorisées jouxte d'ailleurs une autre réserve, celle des Pitcairns, formant ainsi, d'après le gouvernement, le plus grand espace transfrontalier strictement protégé de la planète. Au total, sur 4,5 millions de kilomètres carrés de ZEE, 900 000 sont placés sous protection stricte, 200 000 sous protection forte. Des discussions continuent toutefois entre les armateurs de pêche et les élus locaux qui demandent des protections plus marquées autour de leurs îles, notamment aux Marquises et aux Australes.
On reste sur les questions maritimes avec ce compte à rebours pour le concours Toarif.
Et oui, compte à rebours avant la clôture des candidatures pour cette deuxième édition des trophées organisés par l'antenne locale de l'Ifrecor. Les dépôts de dossiers sont ouverts jusqu'au jeudi 2 octobre, la semaine prochaine. L'idée est la même que l'an dernier, hein, finalement, présenter les meilleures initiatives de protection des récifs coralliens qui couvrent en Polynésie 15 000 km², 4 fois la surface des terres immergées, qui rendent des services inestimables à la communauté. Alors les écosystèmes coralliens, c'est à la fois un garde-manger pour le fait un atout économique majeur pour le tourisme, l'aquaculture ou la perliculture, sans compter son importance pour la préservation des îles contre les tempêtes ou l'érosion. Le problème, c'est que ces écosystèmes sont en danger du fait des activités humaines et du changement climatique, comme le rappelait récemment sur notre plateau le secrétaire général du Haut-Commissariat, Étienne de la Fouchardière.
Leur préservation, elle est essentielle. Effectivement, on est dans une période un peu compliquée où encore l'an dernier, on a eu affaire à un énorme épisode de blanchissement de ces coraux. Donc effectivement, la situation n'est pas simple. Néanmoins, elle n'est pas totalement insurmontable. C'est justement pour ça qu'on veut mettre en avant toutes les initiatives de connaissance et de sensibilisation.
Et les initiatives qui peuvent provenir d'associations, d'entreprises ou d'établissements scolaires. 13 trophées au total seront distribués cette année avec une dotation globale de 4,3 millions de francs. Le public sera aussi appelé à soutenir ses projets préférés. La nouveauté de ce Toarif Contest 2025, c'est aussi un prix accordé aux meilleurs projets de sciences participatives. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook Ifrecor Polynésie.
Sans transition, les passionnés de Carbas sont privés de rassemblement à Atimaono.
Privés pour l'instant en tout cas. Rappelez-vous, le pays s'était engagé après des discussions avec la Fédération Maui de Carodio à trouver des espaces d'expression encadrés pour limiter les rassemblements sauvages et les nuisances qui y sont associées. Alors il y a eu la digue de Motuhuta qui a déjà attiré avec succès les amateurs de gros sons. Il devait aussi y avoir ce grand terrain d'Atimaono en face du golfe côté mer à la limite entre Papara et Maitaya. Le pays avait préparé l'endroit pour accueillir un premier rassemblement cette fin de semaine, sauf que le site a été saccagé, d'après la présidence, par un rassemblement de carbasses sauvages. Il y a quelques jours, les forces de l'ordre ont dû intervenir, des plaintes des riverains ont été déposées, et la fédération, qui rassemble 600 membres, se dit victime collatérale de ces débordements. On écoute Elvina Wongfen, la présidente du collectif.
On a fait des promesses pour diminuer les nuisances non sauvages, pour justement aussi respecter les riverains. Nous, on a limité les décibels de 2,15 à moins. La différence qu'il y a, ceux qui sont allés jouer, ils étaient un peu trop forts par rapport à nous qui devons faire le test. Et c'est ça, en fait, qui m'a un peu touchée. Et que justement, pour garder l'image de la fédération, j'ai préféré annuler et ne pas aller sur place et nous faire porter encore préjudice à cause des événements précédents.
Voilà, la présidente de la fédération Maui de Carodio qui regrette tout de même que le site, contrairement à ce qui avait été discuté avec le pays, n'ait pas été fermé et gardenné pour éviter justement les rassemblements non autorisés. Pour elle, ce n'est qu'en multipliant les sites encadrés et si possible dans toutes les communes que le carbasse sera bien régulé.
Je fais encore appel aux maires de répondre aux besoins des associations existantes dans leur propre commune. Si je les aidais à avoir un site un dimanche par mois, je pense que ces nuisances sonores sauvages pourraient également se diminuer. Parce que là, actuellement, on ne répond pas à leurs besoins. C'est toujours la fédération qui essaie de sauver la mise et de leur trouver des solutions dédiées à leurs patients.
Voilà, Elvina Wongfen qui précise que l'utilisation du site d'Atimaono n'est pas complètement abandonnée. Des discussions doivent reprendre avec le pays pour y organiser un rassemblement d'ici quelques semaines.
On revient aussi sur ces peines prononcées hier pour trafic d'ICE et blanchiment d'argent.
Des peines de prison et des lourdes amendes pour 7 personnes reconnues coupables d'un trafic qui auraient rapporté au moins 120 millions de francs. Cet argent a été blanchi entre autres via des entreprises de remorquage et de location de voitures qui ont vu leur chiffre d'affaires, leur patrimoine mystérieusement explosé. S'ajoutent des voyages multiples et des achats de terrain qui n'ont laissé que peu de doutes aux enquêteurs, rencardés à l'origine par un signalement anonyme. Mais ce qui interroge, c'est qu'une bonne partie de ces achats ont été réalisés en liquide, véhicules, bateaux, engins de chantier, camions plateaux, des paiements atteignant souvent plusieurs millions de francs, alors que les professionnels ne peuvent légalement accepter que 120 000 francs par espèce au maximum. Aucune autre explication. Certaines entreprises ferment les yeux délibérément sur l'origine des fonds, ce qui en fait des complices. Comme l'avait martelé il y a quelques jours le président Moetei Brotherson à la tribune de Tarahoy, les trafiquants, notamment deux couples liés par leur passion commune du carbasse, on en parlait, ont écopé hier de peines d'un à six ans de prison et d'amendes allant jusqu'à 65 millions de francs. Mais comme l'ont relevé les avocats de la défense, les entreprises qui ont accepté des millions de francs issus du trafic d'ICE, elles n'étaient pas convoquées à la barre du tribunal.
On finit par un mot de sport maintenant avec une rencontre, celle d'un pongiste hors norme.
Il s'appelle Philippe Castel et il a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson il y a 4 ans. Les médecins ont été clairs, il y a des médicaments, il y a des soins médicaux, mais 50% du traitement c'est l'activité sportive. Le sexagénaire a donc fait ses choix. Le tennis de table, connu pour contrer efficacement les effets de la maladie, et il ne pratique pas en dilettante. Après 4 petites années de pratique, donc il a été médaillé de bronze en double senior au championnat de Polynésie tout récemment. C'est devenu une passion, mais une passion thérapeutique. Le ping-pong répond parfaitement aux besoins des patients de la maladie de Parkinson.
Ce qui développe, c'est les réflexes, la coordination. C'est un sport de stratégie aussi, donc ça fait penser un petit peu son jeu. Et puis l'équilibre. En fait, ce dont on souffre en maladie de Parkinson, c'est la motricité. C'est-à-dire qu'on perd les mouvements qui se font spontanément. Mettre un pied devant l'autre, il y a des moments de la journée, je suis obligé d'y penser. Donc ça touche l'équilibre, parce qu'on a de la raideur qui s'installe. D'un autre côté, on se déplace sur une aire qui n'est pas très grande. Donc pour des gens qui ont un problème de mobilité, ça permet de maîtriser quand même l'espace de jeu.
Voilà, le pongiste Philippe Castel qui se prépare désormais à un autre défi, représenter Tahiti au championnat du monde Parkinson qui se tiendra fin novembre en Suède dans le cadre du Festival mondial de tennis de table pour la santé. Le Polynésien s'y est déjà déplacé deux fois, mais cette fois c'est pour gagner ou au moins pour faire un podium. Il multiplie les entraînements. Il faut dire que l'année dernière, 150 participants de 25 pays étaient alignés. Autant de pongistes qui ont un double défi, la gestion de leur technique et de leur effort bien sûr, mais aussi la gestion de leur maladie.
Je me souviens, en Irlande, on dit qu'ils ont 4 saisons dans la journée, mais moi, je peux avoir 4 âges dans la même journée. Je peux me lever, avoir 90 ans, c'est-à-dire traîner les pieds, pas mettre un pied devant l'autre. Après, mon traitement fait que je vais retrouver ma jeunesse. Donc, même pendant, on va anticiper le fait que pendant un match, je peux avoir un moment de blocage, un petit moment de crise. Du coup, il y a des règles adaptées, on peut avoir des pauses médicales, etc. Mais il faut qu'on se prépare aussi à ces situations où il y a des moments, on est réduit en mobilité.
Et pour financer ce projet, cet enseignant en art appliqué vend des dessins qui représentent notamment du tennis de table. Il a aussi lancé une cagnotte en ligne. Le lien est sur notre site radio1.pf. Philippe Castel le précise, au-delà du sport, les championnats du monde Parkinson sont aussi l'opportunité de discuter avec d'autres malades et de participer à la recherche, puisque les scientifiques profitent de l'événement pour relever des données sur les patients et puis pour tenir des conférences et des congrès. Voilà le lien donc pour la cagnotte pour financer ce déplacement au championnat du monde de ping-pong Parkinson. C'est sur notre site radio1.pf. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'information dans le flash de la rédaction, ce sera à 16h, et puis toute la journée et même toute la nuit sur radio1.pf.
Merci beaucoup Charlie pour les informations. Maintenant, c'est la météo sur Radio.